avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Kristeva, l'œuvre qui bouscule la littérature. C'est notre série de cette semaine. Hier, nous avons évoqué les enjeux adossés à l'approche sémiologique et psychanalytique de Julia Kristeva. Aujourd'hui, deuxième épisode, Proust et Dostoïevski. Il n'y a vraiment aucune évidence à rapprocher Dostoïevski et Proust. Le premier guette les normes, le pulsionnel, la destructivité. Le deuxième a le goût des petites choses qui permettent de remonter le temps, d'accéder à l'intime, de tisser la toile du souvenir. Dans le petit monde de l'analyse littéraire et des spécialistes, on travaille sur Dostoïevski ou sur Proust, non sur les deux. En cela, Julia Kristeva fait exception, elle qui s'est penchée sur ces deux œuvres, sur ces deux fleuves d'écriture, soucieuse d'approcher leurs différences mêmes. Permettons-nous donc ce matin l'audace du rapprochement impossible, puisque c'est celui-là même que Kristeva ose et pratique. Bonjour Julia Kristeva.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être à nouveau dans ce studio ce matin pour ce deuxième épisode. Écrivaine, psychanalyste, professeure émérite de l'université qu'on appelait avant Paris 7 Denis Diderot. Vous enseignez dans plusieurs universités américaines et canadiennes. Vous avez publié en 1994 chez Gallimard Le Temps Sensible, Proust et l'expérience littéraire. Et puis chez Fayard en 2021, Dostoïevski face à la mort ou le sexe hanté du langage. Après avoir écrit 2 ans plus tôt un Dostoïevski dans la collection Les auteurs de ma vie des éditions Buchet-Chastel avec l'aide de Nicolas Aude et Elisabeth Bélorget. Bonjour Nicolas Aude, justement. Bonjour. Vous êtes avec nous, merci. Vous êtes maître de conférence en littérature comparée à Sorbonne Université, spécialiste du domaine slave. Vous venez de co-diriger un collectif intitulé Spectre de Dostoïevski, publié chez Garnier, donc là, juste en janvier. Et vous êtes l'auteur d'un livre publié en 2022 aux éditions de l'École Normale Supérieure intitulé « Les aveux imaginaires, scénographie de la confession dans le roman Angleterre, France, Russie ». Enfin, bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Bienvenue, professeur à l'Université de Columbia à New York au département de littérature française, professeur au Collège de France et désormais membre de l'Académie française. Vous avez publié en 1989 au Seuil, Proust entre deux siècles, et puis plus tard, en 2022, Proust du côté juif, paru chez Gallimard en 2022, année où vous avez aussi dirigé l'édition en Pléiade des essais de Proust, vous qui aviez déjà présenté et à noter dans l'édition de poche Folio Gallimard, du côté de chez Sfane et Sodome et Gomorre. Merci à tous les trois d'être ici pour discuter de Proust et de Dostoïevski. Pour commencer, je vous propose d'écouter une réflexion du traducteur de Dostoïevski, André Markovitch.
La pureté de la race, la pureté de la nation, la pureté de la langue, tout ça me semble des idées très dangereuse. Et une des raisons pour lesquelles je traduis Dostoïevski, c'est justement qu'il arrive à une espèce de beauté, d'émotion totale par l'impureté.
C'était sur France Culture en 1996. Julia Kristeva, l'impureté de Dostoïevski dans sa manière d'écrire, c'est une chose importante pour vous ?
En tout cas, ce qui est toujours d'importance pour moi, c'est la traduction de Markovitch, si vous permettez.
Oui, je
ne sais pas si ça a un rapport avec l'impureté, mais j'essaierai de revenir. J'avais lu Dostoïevski dans ma jeunesse en russe. Oui. Et mon père avait caché les livres à la dernière marche de la bibliothèque à côté de ceux de Freud parce que il fallait pas bousculer l'idéologie dominante et exposer les enfants à des critiques intempestives.
Dominante par rapport à
dominante
au communisme,
un pays de l'Est où Dostoïevski n'était pas interdit mais était plutôt mal vu et Freud pas connu, donc c'était des auteurs à ne pas donner à tout le monde. Et donc, quand j'ai essayé de le lire dans la traduction de la Pléiade, je ne trouvais pas mon Dostoïevski. Je ne trouvais pas le Dostoïevski que j'avais senti, vécu, aimé ou détesté.
Mais en
tout cas,
Quand vous l'aviez lu en bulgare, en russe, en quoi?
Oui, mais au départ, bien sûr, parce que la russe était la langue seconde, oui. et mon russe continue à être relativement accessible. J'ai des patients qui viennent de la Russie pour faire une analyse en russe, mais Nicolas est beaucoup mieux que moi. Il m'a beaucoup aidé, nous y reviendrons. Et donc dans ce contexte, la traduction de la Pléiade qui est parfaite, juste, transmissible et très honorable, m'a paru loin de ce que j'avais vécu. Et la traduction de Markovitch m'a ressourcée avec le génie de Dostoïevski et avec sa capacité de ne pas faire du pur, mais donner du sens à l'impur.
Est-ce que je peux vous...
Et l'impur, c'est la passion.
Ah, c'est voilà, c'est ça. Limite. Qu'est-ce que c'est l'impur? C'est la destructivité pulsionnelle.
C'est des choses et essayer de... placer sa vie dans ce qui n'a pas de limite et ce qui traverse tous les obstacles. Il y a une phrase que j'ai mise en exergue et qui correspond à peut-être ce que Markovitch entend par l'impur. De toutes les choses que je vivais, partout, j'essayais de vivre jusqu'à l'ultime limite et j'ai passé ma vie à les transgresser. Donc c'est ce passage à la limite des normes, quel qu'il soit, que ce soit dans la respiration, il était épileptique, dans la vie sociale, il était croyant, orthodoxe, fervent, dans l'écriture, où il était dans un blasphème permanent par rapport à tout ce qui est convention et permissivité, dans le style, ces phrases longues dont Proust est d'une certaine manière inspiré, c'était quelqu'un qui nous rendait accessible et assimilable l'impureté comme une sorte de vérité. Mais je n'emploierai pas le terme impur, sinon peut-être dans le sens où nous le trouverons chez Colette, qui parle, lorsqu'il s'agit de la passion, du pur et de l'impur. Voilà, mais passons par Markovitch, si les lecteurs français veulent lire Dostoïevski dans ce qu'il a de plus profond et émouvant et peut-être inacceptable pour le conscient, mais qui travaille et bouscule l'inconscient, il faut lire Markovitch pour Dostoïevski.
L'impureté du style, le fait que les phrases, parce que c'est ce qu'il dit par ailleurs dans cet entretien, André Markovitch, à propos du style de Dostoïevski, Nicolas Aude, il dit que les phrases ne sont pas parfaites, qu'il y a des répétitions, qu'il ne s'est pas relu en quelque sorte, qu'il y a quelque chose de haletant qui est inégal parfois.
Mais c'était le corps qui doit parler, il est très oral, c'est une tessiture vocale qui n'est pas de l'écrit, c'est pas la bonne phrase.
Mais moi je trouve ça très bien l'impur, hein. Ne croyez pas que je suis en train de...
Non, mais c'est pour dire, je ne discute pas avec vous, mais avec le lecteur qui pense que l'impur c'est mauvais. L'impur est revendiqué. Il veut toucher à la profondeur de l'homme en étant jusqu'à ces moments où la phrase n'entre pas dans le vrai. Et pour qu'elle entre dans le vrai, il faut qu'il la bouscule. Et finalement, ça ne passe pas comme quelque chose de bâclé ou d'irrégulier, mais qui résonne avec la vérité de l'être et du néant, de tout ce que vous voulez. Toutes les dichotomies sont traversées.
Le criminel et le saint, la sainteté, voilà. Vous évoquez ses contradictions, vous évoquez sa destructivité, peut-être quelque chose de l'ordre du sacré noir, évoqué par Georges Bataille. Nicolas Aude, vous êtes d'accord que c'est cela, le style impur, au sens que dit André Markovitch de Dostoïevski ?
Il y a cette thématique dans la critique dostoïevskienne, cette idée d'une négligence du style chez Dostoïevski. Il y a aussi des impératifs économiques qui ont modelé sa création. Dostoïevski travaille dans l'urgence. À partir des années 60, il fait appel à une sténographe, donc il va arrêter de... qui va devenir son épouse. Donc il y a cette oralité qui innerve son écriture. Et puis cette impureté, c'est aussi celle de l'intertextualité qu'a théorisé Julia Kristeva à partir de la lecture de Dostoïevski par Bakhtine, c'est-à-dire cette polyphonie, cette pluralité de textes qui nourrissent l'œuvre.
Antoine Compagnon, est-ce que ce qualificatif impur pourrait être employé à propos du style de Proust, au sens où il y a des phrases qui ne donnent pas l'impression de pouvoir se terminer, même si elles finissent par se terminer, où il y a aussi, si vous me permettez de le penser, une inégalité des pages de Proust. On sent aussi qu'il ne s'est pas toujours relu. Quelque chose qui suit le flux de l'envie d'écrire. Est-ce que quelque chose de cet ordre vous intéresse et vous paraît juste, parlant de Proust?
L'œuvre de Proust est monstrueuse.
Oui.
Elle est monumentale, mais elle est aussi monstrueuse. Et n'oublions pas qu'elle est inachevée. Qu'il y a un bon tiers qui est posthume, et que ce bon tiers posthume ne serait pas du tout ce que nous connaissons si Proust avait vécu plus longtemps. Puis, il a tellement modifié le début sur les dactylographies, oui, sur les épreuves, les rendant à la fois plus purs et plus impurs, puisqu'il fait toujours des ajouts, oui, qui ne s'insèrent pas toujours bien.
Est-ce
Donc
que
c'est une œuvre qui a, oui, des tas de, oui, bavures, des tas de fils qui pendent, loose threads, des, oui, fils qui ne sont pas noués, qui auraient pu donner lieu à des développements. Oui, c'est une œuvre impure, mais au fond, toutes les grandes œuvres sont impures. Toutes les grandes œuvres ont quelque chose d'un peu monstrueux.
Oui.
Elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas closes comme des œufs. Et c'est pour ça qu'à chaque génération, on les relit pour d'autres raisons. On trouve toujours des raisons de les relire qui sont différentes de celles que pouvaient avoir les générations précédentes. Et c'est lié, en effet, à leur dimension d'imperfection. Une grande œuvre, pour moi, par définition, c'est une œuvre qui est imparfaite.
Hier,
si elle est parfaite, eh bien,
oui,
elle meurt après, oui, ses premiers lecteurs. C'est la littérature de genre, comme on dit aujourd'hui. C'est parfait, la littérature de genre, mais on peut l'oublier.
Nous disions hier dans l'émission, le premier épisode consacré à l'œuvre de Julia Kristeva, que les structures du langage, les grands concepts, y compris psychanalytiques, sont des outils puissants, mais ce qu'il faut toujours montrer, c'est que ça ne marche pas dans une grande œuvre. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
Et
c'est ce que vous êtes en train de dire.
Heureusement.
À propos de Proust.
La littérature est plus forte,
oui,
que tous les instruments que nous pouvons utiliser pour la lire. Et c'est pour ça qu'on, oui, ne cesse de la relire. Comme je disais, génération après génération, il y a toujours quelque chose d'autre à y trouver, et elles ne sont jamais épuisées par aucun des concepts que nous pouvons leur appliquer.
Il reste
voilà, une grande œuvre, c'est une œuvre imparfaite.
Oui. Il reste que le monstrueux que vous évoquiez là, Antoine Compagnon, pour s'appliquer aux deux auteurs, certainement, Dostoïevski et Proust, est différent. Chez les deux. Alors là, j'aimerais, Julia Kristeva, que vous précisiez, il y a quelques emprunts clairs, mais c'est très bien. Enfin, encore une fois, c'est très intéressant aux approches du mal, de la destructivité chez Georges Bataille dans votre lecture. Et tout le monde le sent chez Dostoïevski. Est-ce que lui qui a écrit Les possédés, qu'on a appelé ensuite Les démons, viser quelque chose comme la dépossession dont parle Georges Bataille dans L'expérience intérieure, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a aucun personnage qui soit dans la sérénité, la maîtrise, que tout se défait sans arrêt, monstrueusement et pulsionnellement, dans le comportement et dans le psychisme de tous les personnages dostoïevskiens.
Il y a dans cet inachèvement de la phrase et de la structure et de la phrase et des personnages une similitude en effet, et aussi bien Nicolas Roux que Antoine Compagnon l'a signalé surtout, il y a une certaine similitude, mais je trouve qu'il y a une grande différence en ceci, que autant Proust cisèle, reformule et essaye quand même d'orchestrer cette pluralité et cette impureté. Et en ceci, il a le génie du classicisme français. Il se réclame de Madame de Sévigné, par exemple, ou de Saint-Simon, qui font voûte sur le néant. C'est très construit, ça déborde, mais c'est très musiqué. Autant chez Dostoïevski, il y a ce flot destructeur,
oui,
qui me semble remonter à deux sources. D'une part, à sa grande dépendance de la religion orthodoxe chrétienne, pour laquelle il n'y a pas de théologie, mais on atteint la perfection par la prière. Mm-hmm. Et dans la prière, le moi s'efface dans l'innommable. Il y a un culte de se laisser porter par le sensoriel sans pouvoir le maîtriser. C'est s'adonner à la passion, qu'elle soit une jouissance, mais surtout qu'elle soit la douleur. Et cet impact de l'orthodoxie innommable qui passe par la philokalie, c'est-à-dire se laisser porter par le sentiment, l'hésychasme, il n'y a pas de nom pour Dieu, il faut rester dans l'innommable, c'est non seulement permis, mais c'est ce qui est insufflé aux croyants, anime la vie spirituelle et la vie mentale, philosophique de Dostoïevski. Et puis il y a son épilepsie.
Alors
c'est
justement,
un corps travaillé par le mal n'est pas un concept pour lui, n'est pas un fait politique ou moral, ça l'est aussi, mais c'est surtout un éprouvé, un vécu, et il est travaillé par cette crise, cette secousse qui vous met hors de vous et qui vous confronte au néant dont vous vous extrayez, c'est-à-dire l'incapacité de parler, de vivre et de retrouver le langage.
Alors justement, écoutons cet extrait de vous-même, Julia Kristeva, dans Dostoïevski face à la mort ou le sexe hanté du langage. Vous évoquez l'épilepsie comme vécu corporel de Dostoïevski et le fait que cela transpire dans sa langue.
Il ne guérit pas de l'épilepsie. Moïse lui-même, le prophète Mahomet, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Flaubert aussi, parmi d'autres géants des civilisations, laissent entendre ce qu'ils doivent au mal sacré. Dostoïevski est le seul qui, dans le phénomène anormal dont il souffre, repère une augmentation paroxystique pathologique de la capacité spécifiquement humaine, celle de dire, de faire sens, qui n'advient que dans le buisson ardent de tous les sens. La voix qui parle, se souvient et pense, résume l'acmé des jouissances souffrances dont elle participe en s'arrachant. Le verbe décroche de l'énoncé pour rattraper l'angoisse, l'envie à mort, l'indifférence qui tue, assassinat et salvation, cruauté de l'incarnation. Aucune concrétude ne reste hors langage, aucun démon n'y résiste. Ils y trouvent tous leur demeure. La crue du verbe s'en laisse infiltrer, dilater, trouer, jubiler. Elle s'estompe elle-même dans le nœud de l'angoisse et la fêlure du crime. Mais pas l'ombre d'une défaite, résignation ou renoncement. Au cœur du désastre, pas de néant.
Julia Kristeva est élue ici par Riad Kera de notre équipe. Nicolas Aude, ce sens du paroxysme dans la crise épileptique qu'évoque ici Julia Kristeva et qui se lit dans la plume, dit-elle, de Dostoïevski, jusqu'à l'ombre de la défaite mais sans jamais renoncer, donc jusqu'à l'état limite. Vous êtes d'accord que cela éclaire quelque chose de l'écriture et de certaines scènes? D'ailleurs, si vous pouviez donner un exemple, ce serait extraordinaire. Ça nous aiderait.
Volontiers. En tout cas, ça éclaire aussi la conception qu'a Julia Kristeva de l'écriture et le passage, si vous voulez, d'une théorie du texte à une théorie de l'expérience et de la jouissance. La crue du verbe, c'est cette expression dans le texte qui donne son titre à la première partie du Dostoïevski Face à la mort. C'est un terme qui désigne la jouissance. La jouissance comme excès, comme paroxysme, mais aussi comme transgression. Pour ce qui est de l'épilepsie, il me semble que ce qui est frappant aussi et ce qui peut présider au rapprochement Proust et Dostoïevski, c'est que l'épilepsie change un rapport au temps du sujet. Si vous regardez les personnages de Dostoïevski qui sont des épileptiques, Mishkin, Kirillov dans Les Démons ou Smerdiakov, vous voyez, mais cela s'étend à d'autres personnages, je pense à Raskolnikov par exemple, vous voyez des personnages qui en permanence sont excentrés du flux temporel et essaient de se souvenir. Parce que la crise, c'est une abolition du sujet et de sa mémoire. Mmh. En quelque sorte, Dostoïevski, c'est un écrivain de l'anti-mémoire. C'est un écrivain qui essaie en permanence, à travers ses personnages, de recréer un monde et un flux temporel autour de lui. Et il y a, c'est ce que découvre Julia, une jouissance dans cette...
Dans cet anti-Proust, j'ai envie de dire. C'est un anti-Proust.
À la fois dans la douleur dont il s'est sorti, quand il essaye de se remémorer à travers les personnages qui représentent cet état de mal, on sent qu'il éprouve une espèce de bonheur de pouvoir lui dire ce mal-être, cette douleur. Mais le bonheur est supérieur dans la jouissance, c'est-à-dire dans la capacité du langage de rebondir, oui, et de pouvoir dire et le mal et les relations qui vont découler après, et la vie autour, et la critique de la société, les femmes et les hommes, et la royauté, l'Église, etc. La crue de ce langage, qu'on peut appeler impur, et qui coule à flot, et qui est la véritable vie, la pulsation, que j'appelle moi la crue du langage.
Mais c'est aussi le clivage, dites-vous.
Et c'est se transmet, oui, au lecteur.
Et il y a quelque chose de perdu, toujours, de troué, de brisé chez Dostoïevski. Sur ce point, c'est un anti-Proust qui essaye toujours de retisser, voilà, la mémoire. Est-ce que vous les pensez vous-même comme des contraires quand vous travaillez?
Exactement. Non, on n'a pas développé hier la question de la jouissance. On a parlé, oui, beaucoup de la différence entre l'écriture vue par la linguistique et la sémiologie d'une part, et par la psychologie, analyse de l'autre. Et on a touché à la question de la pulsion, de la passion. Ce qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot de jouissance que Nicolas a apporté, et ce que j'essaye, moi, de soustraire un peu aux terminologies psychanalytiques et de parler de quelque chose qui peut être accessible à tous les lecteurs. C'est la crue du langage. Quand la gorge vous déborde avec une puissance qui vous invite à trouver votre crue et votre capacité de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui se passe là, c'est que ça nous renvoie au stade du bébé repu et qui vit et qui est rempli de tout son corps de cette vie, oui, et c'est un plaisir total. Ce n'est pas le plaisir que nous vivons avec les zones érogènes, chacun d'une façon ou d'une autre, mais le corps tout entier vit ce plaisir. Tandis que l'autre, maman ou le corps social, ne répondent pas ou répondent. Donc l'objet est quelque chose où la maladie nous empêche d'avoir cette jouissance. Mais le langage est cette invention de l'être humain qui lui permet de dire et la douleur et le plaisir. Et ce qui est interdit et ce qui me déborde d'affect, de plaisir, plus de bonheur, on va dire. Eh bien, cette capacité du langage de produire un surplus de vivacité qui est autre que biologique, même si elle s'enracine, oui, dans le biologique, c'est ce que cherche l'écriture. Et Proust va le trouver dans l'idée de la transsubstantiation et dans la façon dont il va faire entrer les métaphores du langage qu'il appelle métamorphose, parce qu'il touche le sensible. Ce n'est pas une langue abstraite, c'est une langue vibrante. Et Dostoïevski va le faire avec beaucoup plus d'insistance sur la douleur, le mal et la condamnation.
Alors il se trouve que Proust a évoqué Dostoïevski, c'est dans La Prisonnière. Marcel et Albertine ont un dialogue. Je vous propose de l'écouter. Je ne suis pas sûre que ce que disent Proust là, et on parlait d'impureté et d'imperfection, soit parfaitement clair et net. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant. Vous nous direz ce que vous en pensez, tant Antoine Compagnon que Julia Kristeva.
Qu'est-ce que vous avez voulu dire l'autre jour quand vous m'avez dit « c'est comme le côté Dostoïevski de Madame de Sévigné » Je vous avoue que je n'ai pas compris.
J'avoue que ce que j'avais dit là était assez bête, mais je l'avais dit pour deux raisons. La première est une raison particulière. Il est arrivé que Madame de Sévigné, comme Elstir, comme Dostoïevski, au lieu de présenter les choses dans l'ordre logique, c'est-à-dire en commençant par la cause, nous montre d'abord l'effet, l'illusion qui nous frappe. C'est ainsi que Dostoïevski présente ses personnages. Leurs actions nous apparaissent aussi trompeuses que ces effets d'Elstir où la mer a l'air d'être dans le ciel. Nous sommes tout étonnés après d'apprendre que cet homme sournois est au fond excellent ou le contraire. Oui, mais un exemple pour Madame de Sévigné. J'avoue, lui répondis-je en riant, que c'est très tiré par les cheveux, mais enfin, je pourrais trouver des exemples. Voici une description. Mais est-ce qu'il a jamais assassiné quelqu'un, Dostoïevski ? Les romans que je connais de lui pourraient tous s'appeler l'histoire d'un crime. C'est une obsession chez lui, ce n'est pas naturel qu'il parle toujours de ça. Je ne crois pas, ma petite Albertine. Je connais mal sa vie, mais c'est un grand créateur. D'abord, le monde qu'il peint a vraiment l'air d'avoir été créé pour lui. Tous ces bouffons qui reviennent sans cesse, tous ces Lebedev, Karamazov, Ivolgin, Segrev, cet incroyable cortège, c'est une humanité plus fantastique que celle qui peuple la ronde de nuit de Rembrandt. Et peut-être pourtant n'est-elle fantastique que de la même manière, par l'éclairage et le costume, et est-elle au fond courante? En tout cas, elle est à la fois pleine de vérité, profonde et unique, n'appartenant qu'à Dostoïevski.
Parlons de Dostoïevski et Proust ce matin. Je suis en compagnie d'Antoine Compagnon, Nicolas Aude et Julia Kristeva. Nous sommes dans ce deuxième épisode d'une série consacrée à l'œuvre de Julia Kristeva. Proust, l'extrait que vous venez d'entendre était lu par André Dussolier dans une édition des éditions Telem que chacun peut retrouver. Et c'est Beethoven que nous avons mis à la demande même de Julia Kristeva après cette lecture, le Quatuor à cordes numéro 14 en ut dièse. Le dernier mouvement, numéro 7, c'est un allegro, mais on entend et de la lenteur et de la brutalité. Et je crois, Julia Kristeva, que c'est exactement ce que vous vouliez pour parler de Dostoïevski. Sauf que, Antoine Compagnon, ce n'est pas très clair ce que dit Proust, peut-être parce que la question « Y a-t-il un côté Dostoïevski chez Madame de Sévigné ?» est à la limite de l'absurde.
Il le reconnaît. C'est un passage capital dans La recherche du temps perdu, que cette page, oui, elle prend part, elle fait partie d'un ensemble où Proust discute sa propre esthétique. Donc c'est une sorte de manifeste du style de Proust lui-même. Alors, il y a une référence à Elstir, il y a donc une référence à l'impressionnisme, à Raskin, tout ce qui vient de cette esthétique qui est au fond anti-balzacienne. Bon, il y a beaucoup de Balzac chez Proust, mais là, on a une sorte de manifeste anti-balzacien.
Mais anti-Dostoïevski aussi. Comment? Vous ne croyez pas que là, Proust dit justement il reconnaît, ce sont des personnages dignes des ombres de Rembrandt, salue, mais ce n'est pas lui.
Écoutez, ce qui l'intéresse chez Dostoïevski, enfin, à mon sens, mais oui, je connais beaucoup moins bien Dostoïevski que les autres ici, c'est le sentiment de la faute. C'est l'intéresse, c'est ça qu'on voit apparaître ici, c'est le péché, c'est le péché originel, c'est le mal, comme disait Julia, et c'est ce thème-là qui hante toute la recherche du temps perdu. Là où elle devient justement la plus monstrueuse, c'est cet immense développement qui n'en finit pas de Sodome et Gomorre 1, Sodome et Gomorre 2, Sodome et Gomorre 3, Sodome et Gomorre 4. Donc il y a bien le cadre au début, le début et la fin, ça c'est clair, mais au milieu, ça éclate, ça explose, comme peut-être l'œuvre de Dostoïevski. Là, ça déborde les limites. Et ce qu'il développe ici, c'est une esthétique qui part de l'incompréhension. C'est ça. Dans l'œuvre de Balzac, on comprend, puisque les personnages sont décrits avec la logique qui est là. Mm-hmm. Dans l'œuvre de Dostoïevski, comme dans l'œuvre de Proust, on se perd. On se perd lorsqu'on les aborde. Le premier sentiment est ce sentiment d'égarement. Et peu à peu, on trouve son chemin. Alors la comparaison avec Madame de Sévigné, moi, elle me paraît assez limpide, puisque le monde de Madame de Sévigné, eh bien, c'est un monde d'impression, c'est un monde de description, et c'est une correspondance. Oui. Dans une correspondance, il n'y a pas ce fil narratif, donc toute la logique est à reconstruire lorsqu'on lit une correspondance lettre après lettre. Et c'est ça qu'il est en train de décrire. Lorsqu'on est dans les mémoires de Saint-Simon, ou dans qui sont les grandes références, disons, anti-balzaciennes de Proust, Saint-Simon ou Sévigné, eh bien, c'est au lecteur, qui est d'abord totalement perdu, de creuser son chemin, de trouver sa voie. C'est ça qu'il... moi, l'analogie, Dostoïevski, Proust, elle me convient très bien.
Oui, non, mais Dostoïevski, Madame de Sévigné, car vous veniez de dire tout à l'heure, Julia Kristeva, que s'il y a bien un style français qui essaye de colmater les grandes brèches qui intéressent Dostoïevski, c'est le style de Madame de Sévigné, c'est le style de Saint-Simon, etc. Donc là, Proust, moi je me demande s'il n'y a pas une ironie là, à parler du côté Dostoïevski de Madame de Sévigné.
Ah ben écoutez, l'exemple qu'il donne est très clair, et Antoine a raison de le dire. Il explique ce qu'il veut entendre dire en citant Madame de Sévigné. Il dit, au lieu de donner l'ordre logique, c'est-à-dire de commencer par la cause, elle donne l'effet, c'est-à-dire l'illusion qui frappe. C'est génial. L'illusion, c'est pas la vérité du tout, et qui frappe, qui vous émeut, qui vous met hors de vous, et vous ne cogitez pas en la lisant, vous sentez, vous êtes dans un état onirique, hallucinatoire.
Le moment où elle ne maîtrise plus, Madame de Sévigné.
Mais oui, mais c'est là, il trouve, dans ses lettres, il y a des passages comme ça. Tout Madame de Sévigné n'est pas de cet ordre-là, mais elle se donne, et surtout dans une écriture qui n'est pas faite pour être éditée, mais qui est des lettres à sa fille, elle est dans une relation qu'on appellera, nous, en psychanalyse, de transfert. Elle se laisse aller, elle fait des associations libres. Et la phrase qu'il cite, elle voit des moines, des religieuses, des coxigrues, je ne sais pas ce que c'est les coxigrues, des espèces de choses vraisemblables, des cheveux, des gens, des morts qui sont tout droits. Enfin, c'est une description d'un monde du mal, du désordre et du chaos qui a l'air tout à fait dostoïevskien. Oui. Pour les gens qui ne sont pas des grands spécialistes de Dostoïevski, mais qui ont été frappés par la violence et le mal qui se dépend, qui se répand dans le texte de Dostoïevski. Il est très juste dans la personne. D'ailleurs, il dit dans ces grandes envolées autour de Dostoïevski, où il essaye de forger son esthétique spéciale que tout le monde ne comprend pas, mais qui est très juste, Albertine, tout à coup, se fait dostoïevskienne. On ne s'attendait pas d'Albertine qu'elle connaisse Dostoïevski. Mm-hmm. Elle demande
au
narrateur si Dostoïevski était criminel, parce qu'il est question de pédophilie, de parricide, etc. Et le narrateur, il lui répond qu'un écrivain n'est pas obligé d'éprouver ce dont il parle. L'air de dire, moi aussi, peut-être je peux parler comme ça sans être criminel. Donc, il fait une différence entre l'imaginaire et le réel, mais il donne tous ses droits aux criminels pour aller au bout du mal.
Alors, je voudrais qu'on creuse un peu quand même les contrastes entre Proust et Dostoïevski. Antoine Compagnon, vous évoquez le style de Proust en insistant sur l'importance des petites choses chez Proust, plus que de l'énorme, hein, en insistant sur les scènes qui peuvent paraître anodines par rapport, disons, aux grandes déterminations psychiques. Vous n'aimez pas beaucoup, je crois, la lecture psychanalytique. Il me semble que là, il y a un débat latent entre vous et Julia Kristeva. Je voudrais d'abord qu'on écoute un extrait d'un de vos derniers textes, La vie derrière soi, où vous parlez de Proust qui infiniment a voulu corriger son texte par des petites choses encore et encore à ajouter au texte. On écoute.
Proust n'eut pas le temps d'insérer ses ultimes notations pour la maladie et la mort de Bergotte dans La prisonnière. Mais ses notes, dictées à Céleste pour enrichir cet épisode, fournissent les éléments d'une légende. François Mauriac signala dans sa nécrologie, quelques jours après la mort de Proust.
Dans sa dernière nuit, il dictait encore des réflexions sur la mort, disant « Cela servira pour la mort de Bergotte ». Et nous avons vu, sur une enveloppe souillée de tisane, les derniers mots illisibles qu'il ait tracés et où seul était déchiffrable le nom de Forcheville. Ainsi, jusqu'à la fin, ces créatures se sont nourries de sa substance, auront épuisé ce qu'il lui restait de vie.
Les ultima verba de Proust, son testament littéraire, relèvent peut-être du mythe. Mais Proust eut son œuvre en tête, pensa à la corriger, à la parfaire, jusqu'à ses dernières heures. Le narrateur de la recherche avait accepté qu'il n'y eût pas de dernière manière, d'œuvre nécessaire et incorrigible, comme une perle, un métal précieux, un joyau rare, mais qu'elle soit toujours amendable, perfectible, inachevée.
Pas d'œuvre nécessaire et incorrigible pour Proust, j'ai envie de dire pas de paroxysme. Pas de moment ultime, pas d'état limite. Et on est très loin, sur ce point, des enjeux dostoïevskiens. Antoine Compagnon.
C'est une page que Julia Kristeva a commentée également. Enfin, c'est cette mort de Bergotte, et puis le commentaire oui. de François Mauriac, puisque la mort de Bergotte, c'est un des derniers moments insérés dans la recherche du temps perdu par Proust. Et là aussi, c'est un moment où capital, puisqu'il est question de sa propre mort, à travers la description de la mort de l'écrivain et de ce que c'est qu'écrire. Alors oui, là, c'est un point où je me distingue sans doute un peu de cette notion de passion et de transsubstantiation. Moi, je tiens à un Proust qui est plus, je dirais, athée, que préoccupé de mystère, de rédemption, de transsubstantiation et de résurrection. Proust est convaincu de la mortalité de l'âme, mais l'écrivain doit faire, c'est dans, justement dans la page sur la mort de Bergotte, qui est une page capitale, où il dit, je le lis parce que c'est capital, « Il n'y a aucune raison dans nos conditions de vie sur cette terre pour que nous nous croyions obligés à faire le bien, à être délicats, même à être polis, ni pour l'artiste athée à ce qu'il se croit obligé de recommencer 20 fois un morceau dont l'admiration qui l'excitera importera peu à son corps, mangé par les vers. » Donc il y a ce postulat de la mortalité, mais l'artiste doit faire comme si.
Alors, est-ce que c'est une résurrection?
Il pouvait y avoir une immortalité, sinon on ne se livre
faire
pas.
Faire comme à la... si. Oui. Comme... Est-ce qu'il y a, il n'y a pas du tout de résurrection du passé?
Pas pour,
de résurrection, j'emploie le mot exprès, un mot un peu religieux qui peut-être plaira, je ne sais pas, à Christophe, n'y a-t-il pas de résurrection du passé dans le travail romanesque de Proust?
Il y a une résurrection du passé, mais qui, à mon sens, est totalement athée, hein, séculière, et c'est là où je crois que je me distinguerai de Kruševa. Et il y a beaucoup de pages de Proust où il insiste sur le fait que l'écrivain doit avoir une sorte de foi implicite sans croire. La foi implicite sans croire, c'est une sorte de suspension volontaire de l'incrédulité durant le temps qu'on écrit. Si l'on n'est pas capable de suspendre l'incrédulité, eh bien, dit Proust, à quoi bon écrire? Mais c'est une suspension momentanée de l'incrédulité.
Julia,
voilà, c'est comme ça que je vois Proust. Donc un Proust plus athée que celui de Julia.
Votre réponse.
Oui, mais je ne sais pas où Antoine a trouvé que je pense que Proust n'est pas athée, mais je n'ai jamais dit ça. Je pense qu'il n'a peut-être lui-même jamais formulé, mais c'est évident et c'est écrit dans sa correspondance, c'est dans sa vie privée. C'est pas quelqu'un qui a les dogmes du catholicisme, ni de type moral,
ni du judaïsme.
De la transcendance. Du judaïsme, il s'est référé à certains textes, mais il a eu une première communion, peut-être pas de confirmation, il est passé par là, mais il n'était pas un homme croyant. Mm-hmm. Je pense pas dire ça.
Alors pourquoi le vocabulaire de la transsubstantiation
il emploie des termes comme la transsubstantiation pour l'acte de l'écriture.
Oui.
Je vais vous dire la phrase.
Oui, je vous en prie.
Et puis il y en a d'autres. Et par exemple, il s'est impliqué beaucoup dans le combat contre la fermeture des des cathédrales. Il écrit un article dans Le Monde, je pense, dans Le Figaro, on n'avait pas Le Monde à l'époque, dans Le Figaro, pour dire que, imaginons un jour les cathédrales fermées. Il est absolument à l'encontre de cette laïcité fermée, mm-hmm, qui fermerait, tout en étant athée, qui fermerait la place à la tradition religieuse. Et il dit, à propos de la transsubstantiation, quelque chose qui est de l'ordre de la métaphore, parce que oui, ça correspond non pas à une foi religieuse, mais à l'acte de l'écriture. C'est une lettre à Alphonse, à Lucien Godet, du 27 novembre 1913, il dit, il évoque une manière d'écrire, où s'est accompli le miracle suprême, la transsubstantiation des qualités irrationnelles de la matière et de la vie dans les mots humains. C'est dans l'écriture, oui, dans un état particulier, que se met le sujet d'écrire. Non pas d'écrire sa biographie ou de remplir protocole avec SMS et des mails, mais quand il écrit ce qu'on appelait l'écriture dans la tradition du livre et que nous sommes en train de défendre aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas si elle va survivre, mais j'espère que oui. Donc, il se complie dans l'écriture, oui, et dans la lecture. Un miracle qui est celui de la transsubstantiation, c'est là qu'il reprend le mot de la religion, mais qu'il l'emploie dans un sens particulier, qui veut dire que les qualités irrationnelles, la science ne sait pas de quoi il s'agit, mais c'est la perception, la passion, l'investissement, la haine, la colère, l'angoisse, de la matière et de la vie,
oui,
entre dans les mots. Et donc, c'est ce que va nous
montrer. C'est très clair ce que vous dites là. Mais ce n'est pas de la religion, c'est l'écriture qui fait ce que la religion pour lui ne peut pas faire vraiment.
Et ça correspond. Je regardais ce matin, je suis tombée sur quelque chose de très, très curieux. Il exprime là non pas un besoin de religion, mais ce que j'appelle moi un besoin de croire anthropologique, qui entre dans le travail de l'écriture, et que Freud, à la même année, 1909,
oui,
écrit à la même année où s'écrit la Madeleine, que nous prenons comme exemple.
De transsubstantiation. Pour vous, j'aimerais bien que vous l'expliquiez, mais voilà, il faut un peu de temps. Hein.
Je dis seulement une phrase. Freud écrit à Jung, « Je ne pense pas à un substitut de la religion. Ce besoin doit être sublimé. Mm-hmm. » Et c'est ce que fait Proust. Et c'est ce que fait toute écriture.
Bon, c'est une réponse, Antoine Compagnon. En aucun cas, il n'est religieux, il pense.
Une sublimation.
Oui, je crois qu'on a entendu votre point, là.
Mais sans cette sublimation, si on ne vit pas ça, on est dans un applaudissement qui est prêt pour le grand remplacement.
C'est l'écriture, je sais pas très bien ce que le grand remplacement vient faire là, je vous propose qu'on reste sur la question de l'écriture. C'est métaphorique, cette histoire de miracle. Antoine Compagnon, c'est clair.
Proust emploie une seule fois ce mot de transsubstantiation dans cette lettre à Lucien Daudet. Donc, moi, je préfère simplement parler de métaphore ou des anneaux nécessaires.
Mais c'est pas contradictoire.
Non, parce qu'il dit sublimation, tout de suite après.
Mais en supprimant ce mot transsubstantiation.
Quand il parle d'Elstir, il dit les métaphores, ce sont les champs de une sorte de métamorphose des choses.
Oui.
C'est l'idée même de Baudelaire quand Baudelaire dit pour l'écrivain ordinaire quand il se compare à l'arbre et c'est une comparaison et moi quand je dis l'arbre je deviens l'arbre. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas le même investissement. La métaphore devient une métamorphose. L'être humain qui écrit devient ce dont il parle. C'est cette passion de l'écriture qui est à la fois thérapeutique et passionnelle.
Antoine Compagnon.
Je suis en effet d'accord puisque c'est un peu ce que j'essaye de dire par cette nécessité pour l'artiste de faire comme si il y avait une certaine immortalité. C'est ce que Proust
dit. C'est le faire comme si que vous évoquiez.
Faire comme si, c'est ce que Proust dit là. Si nous n'avions pas ce moment durant lequel nous nous pensons immortels, eh bien nous ne recommencerions pas 20 fois un morceau qui peut-être sera éternellement oublié. Et vous savez qu'à la fin du temps retrouvé, il y a cette comparaison avec la cathédrale, mais aussi avec le monument druidique oublié à jamais. Donc l'écrivain qui se livre, Proust s'est tué au travail. Hein. Proust
Mais
est mort
Antoine, vous
d'avoir...
Vous souvenez à propos de cette identification avec la cathédrale.
Oui.
Il est très drôle, il est beaucoup plus athée que vous ne le dites. Parce qu'il dit c'est cathédrale, et il peut dire mais c'est peut-être une robe. L'écriture n'est pas une cathédrale, c'est une robe. Et il met 5 pages pour expliquer avec Céleste, sa servante, combien l'écriture est une robe. Je ne sais pas si c'est l'immortalité dans une robe. C'est le travail qui est valorisé et qui fait qu'on devient quelqu'un qui est donné dans son travail, c'est une autre manière d'être au monde.
Dans la robe, il y a un artisanat, c'est la petite main dans la robe, et puis dans la cathédrale, il y a la monumentalité. Et évidemment, chez tout écrivain, il y a ces deux dimensions.
Je suis désolée de vous l'annoncer, il reste très peu de minutes, et je voudrais juste vous dire que je suis surprise, parce que je ne pensais pas que votre débat portait sur la question de la religion. Moi, je pensais qu'il portait sur la question de la psychanalyse et de l'outil psychanalytique pour penser les textes. Lorsque Julia Kristeva, je vais en dire quelques mots de la Madeleine, parce que vous n'aurez hélas pas le temps de l'expliciter, montre que la Madeleine au fond, ça va jusqu'à, en termes d'association d'idées, au sein de la mère, mais ensuite jusqu'à la fellation et à la question de l'homosexualité de Proust. Je crois que ça, ce genre d'analyse, il me semble, Antoine Compagnon, vous demeure un peu étranger. Est-ce que je me trompe ?
Écoutez, moi j'ai... Évidemment, beaucoup travaillé sur Sodome et Gomorre, puisque je suis l'éditeur de Sodome et Gomorre. Donc, la question des rapports de Proust avec l'homosexualité et avec la mère m'ont en effet beaucoup préoccupé. Bon, il est clair que Proust ne pouvait pas se lancer dans l'écriture de son roman tant que sa mère vivait. Le rapport, sa mère meurt en 1905, c'est suivi par 18 mois d'un deuil et d'une dépression totale. Et lorsque Proust sort de cette dépression, il sort de cette dépression en écrivant l'article fameux qui s'appelle « Sentiments filiaux d'un parricide » sur l'un de ses amis qui a tué sa mère. Ce rapport avec la mère est évidemment centrale dans la possibilité d'enfin écrire ce que Proust a toujours voulu écrire depuis qu'il est tout jeune homme.
Dans votre analyse, vous pensez que les outils psychanalytiques, à un moment donné, doivent s'arrêter, ou au contraire, vous êtes séduit, vous aussi, par l'extraordinaire analyse que vous faites, Julia Kristeva, de cette transsubstantiation qui n'est pas religieuse, qui est celle de l'inconscient et celle de l'écriture, où on passe de la Madeleine, de la tante Léonie, à l'ensemble des femmes qui s'appellent Madeleine dans l'histoire de la littérature, mais aussi, on pense à Marie-Madeleine, au sein maternel, puis à la fellation. Vous y allez à fond, et peut-être que c'est extraordinaire, et puis peut-être que c'est dérangeant, et puis peut-être que ça ne fait pas écho à tout le monde.
Mais écoutez, moi j'essayais de faire que ça sente, de devienne écho pour tout le monde quand on lit Proust, sans forcément lire toute son histoire de son homosexualité. Mais elle transpire dans son écriture même, notamment... même sans qu'elle soit nommée, ou qu'il y ait question du parricide, ou du péché, ou de la rédemption. L'exemple de la Madeleine, il prend du thé avec sa mère, et quelque chose l'excite, monte en lui, ce n'est pas le goût, c'est un plaisir. Il comprend qu'il y a une excitation, amour pour la mère, qui est coupable, et comment il va faire pour s'en détacher? Il déplace la mère avec la tante Léonie, il n'y va pas y penser trop, donc l'excitation devient une mémoire. Tante Léonie, il l'a vécu par-ci, par-là, il a tous les paysages combrés qui entrent en scène, donc il fait du roman, il jouit non pas avec son corps, sa bouche et le thé et maman, mais avec l'ensemble de son imagination. Et la tante Léonie, et après il parle même au Japon, parce qu'il met dans le thé des objets japonais et ça gonfle. Il y a toutes sortes de métaphores aussi qui montrent l'excitation. Donc on est dans une transmission inconsciente de l'excitabilité. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ajoute que les meubles de tante Léonie ont été laissés dans un bordel par Proust. Donc pour conclure les choses. Donc quand on le lit comme ça, on se rend compte que l'homosexualité a incarné l'ensemble de l'écriture, et que vous disiez que je dérange, Kristeva qui dérange la littérature, j'essaye de bousculer la capacité de faire sens. Ça peut donner de l'écriture, c'est ce que nous examinons aujourd'hui, mais ça nous pose des questions quand nous parlons ici, autour de votre plateau, ou avec nos amis, etc. Est-ce que notre manière de nous exprimer ne traduit pas notre sexualité ou notre manière d'être avec nos plaisirs, le mal bien sûr, mais c'est peut-être pas un mal, c'est peut-être une spécificité, une singularité. Nous parlerons avec Hannah Arendt, non pas du mal, mais de la singularité.
Demain, en troisième épisode, voilà. Les femmes et l'écriture. Mais est-ce qu'on laisse répondre à cette analyse que vous venez de déployer, Antoine Compagnon? J'aimerais savoir, vous qui avez passé beaucoup de temps sur Proust, comment ce genre d'analyse, effectivement adossée à une conceptualité psychanalytique chez Kristeva, vous atteint, vous touche, vous plaît, vous déplaît, etc.
Oh ben, ça me plaît, tout me plaît. Toute lecture de Proust me plaît. C'est, comme je disais, il y a toujours de nouvelles lectures possibles de Proust. Mais bon... Je suis sans doute plus historien, ou devenu plus historien, puisqu'il y a longtemps, quand j'ai fait ma première thèse sous la direction de Julia Kristeva, j'étais moi aussi en plein dans la psychanalyse, dans ces années-là.
Et on a rénové la psychanalyse, parce qu'elle bouge grâce à nous aussi.
Oui,
qu'une psychanalyse un peu grand-père qui adapte les choses à
oui,
à
c'est
alors, je suis navrée de vous dire qu'il reste 30 secondes, j'en suis la première à souffrir, croyez-le bien, mais est-ce que vous voulez aller juste au bout de votre développement, et je crois que Julia Kristeva, on entend très bien débat entre vous.
Ce que je voulais dire, c'est qu'à la fois je peux entendre cette lecture de la Madeleine avec ses rapports à la mère et au sein et à la tante et au canapé qui va dans la maison de Jupien, mais en même temps, je l'entends cette Madeleine, c'était d'abord un pain grillé, un pain rassis, et puis une biscotte. Donc il y a toute une... Vous voyez, ça c'est le travail de la robe, le travail artisanal. Le travail artisanal où Proust a réécrit infiniment ce texte jusqu'à aboutir à la Madeleine. Donc la Madeleine, c'est plutôt un aboutissement qu'une origine, pour moi.
Merci beaucoup, je suis navrée. Je crois qu'on a entendu, ça fait vivre les textes aussi, vos désaccords. Merci beaucoup Julia Kristeva, merci Antoine Compagnon et Nicolas Haute qui étaient avec nous.